Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et il dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous as laissée. Nous te remercions pour les précieux trésors que nous pouvons y trouver. Nous te prions que ce matin, ton Esprit Saint éclaire encore notre intelligence, notre discernement, nous éclaire pour y trouver encore ces trésors que tu as nichés dans ce texte et qui veulent nous aider à aller de l'avant dans ces derniers jours de l'année et dans ce début d'année 2021. Dirige-nous et conduis-nous dans ce temps de méditation, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Élie apparaît dans le récit biblique, nous sommes à ce moment-là au 9e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes alors au temps du règne d'Akab et de sa femme Jézabel en Israël. Faisons un petit retour en arrière, très rapide. Après les 430 années d'esclavage en Égypte, Dieu avait libéré son peuple en lui faisant traverser la mer Rouge. Puis, après 40 années encore d'errance dans le désert, eh bien Israël était arrivé en terre promise. Mais, au bout d'un certain temps, les Israélites avaient réclamé un roi, comme les autres peuples des alentours. Nous étions alors au temps du prophète Samuel. Dieu voulait régner sur son peuple, mais, devant son obstination, il accéda à sa demande et il établit Saül, puis surtout David et Salomon, qui conduisirent le peuple d'une façon droite et prospère. Après la mort de Salomon, il y eut un schisme et on retrouva d'un côté le royaume du Nord avec Israël et de l'autre côté le royaume du Sud avec Juda. À partir de là, plusieurs rois vont se succéder sur le trône d'Israël, mais ceux-ci vont toujours plus entraîner le peuple dans l'immoralité et dans l'idolâtrie, faisant ressembler leur royaume à ceux des peuples alentours. Et avec Akab, nous arrivons à une espèce de summum. Son mariage avec Jézabel, une Sidonienne qui prône le culte à Baal, qui est le dieu de la fertilité dans le pays, aggrave encore plus la situation spirituelle et morale d'Israël. Pour obtenir l'aide de Baal et l'appui indispensable pour ce peuple agricole qu'il était, non seulement les Israélites deviennent alors prêts à réaliser des sacrifices d'animaux, mais aussi des sacrifices humains. C'est alors que Dieu choisit d'intervenir et de dire stop. Stop, ça suffit. Et pour cela, il fait surgir dans le palais d'Akab, eh bien, Élie le Tikbite. Et il lui annonce une famine de plusieurs années qui ne cessera qu'à la parole d'Élie. Sur le coup, Akab ne prend peut-être pas Élie très au sérieux. En tout cas, il le laisse partir et Dieu va protéger son prophète en lui laissant le temps d'aller s'établir au torrent de Kérit. Et chose extraordinaire et miraculeuse, Élie y est nourri par les corbeaux, qui sont des animaux impurs, qui lui apportent du pain et de la viande matin et soir, et il peut boire de l'eau du torrent. Le temps semble à ce moment-là comme suspendu. Suspendu au moment où Dieu va ordonner que la pluie puisse de nouveau tomber sur le pays. C'est un peu comme les temps que nous vivons, qui semblent un peu suspendus au gré des confinements et des couvre-feux successifs que nous vivons, en attendant que la Covid perde de sa virulence. Mais bien que d'un côté, Dieu agit avec bienveillance et grâce envers son serviteur en lui prodiguant eh bien, ses soins par la nourriture qu'il lui fournit matin et soir, de l'autre côté, le torrent, lui, diminue au fil des jours, sous l'effet de la sécheresse. Faisons ici une parenthèse. Lorsque nous lisons ce texte, nous pourrons avoir l'impression que Élie y est dépeint d'une façon assez lisse. Je m'explique. Quelles que soient les circonstances et les événements qu'il semble vivre, eh bien, il semble imperturbable. Et il semble rempli d'une confiance et d'une obéissance inébranlable. À tel point que ce prophète, considéré comme le plus grand de l'Ancien Testament, peut paraître bien trop éloigné de nous et trop différent, parce que bien trop saint, entre guillemets, pour que nous puissions nous identifier à lui. Or, l'apôtre Jacques nous dit, au chapitre 5 de sa lettre, qu'Élie était un homme comme nous. Il avait les infirmités que nous. Et la dépression qu'il aura quelque temps après révèle qu'Élie n'était pas un homme aussi invulnérable que cela. Du coup, le texte que nous méditons prend un autre relief. Et je peux m'autoriser à m'identifier à Élie et tenter d'imaginer ce qu'il a pu ressentir et comprendre au fil du récit pour mieux m'identifier à lui, et c'est ce que nous allons faire. Or, justement, le torrent est en train de diminuer au fil des jours. Et quelle aurait été ma réaction à la place d'Élie, justement? Je me serais peut-être levé chaque matin avec l'angoisse de voir le torrent à sec, et j'aurais couru pour vérifier que j'allais pouvoir boire encore aujourd'hui. Au fur et à mesure que le torrent était de plus en plus sec, Élie fixait peut-être le cours d'eau de façon de plus en plus obsessionnelle. Oui, quelle aurait été ma réaction à la place d'Élie, alors que le spectre de la soif s'agitait de plus en plus devant ses yeux et dans ses pensées? La situation qu'était en train de vivre Élie ne ressemble-t-elle pas étrangement à ce que nous pouvons vivre, ce que nous avons vécu en 2020 et ce que nous vivons encore, à mon avis, pour quelque temps? Au fur et à mesure que les mois se sont écoulés en 2020, eh bien, nous avons fixé nos regards de plus en plus inquiets sur l'évolution de la Covid, au point parfois peut-être d'en faire une obsession. C'est parfois peut-être avec une angoisse obsessionnelle, en effet, que nous nous sommes tenus au courant des dernières informations ou que notre pic de stress a bondi lorsque nous avons appris que quelqu'un de notre entourage était testé positif. Or, rappelons-nous qu'Élie était nourri par les corbeaux, matin et soir, tandis que le torrent, lui, diminuait. Où se dirigeait le regard d'Élie pendant toute sa période? Était-il tourné vers le bas, scrutant le cours d'eau avec inquiétude? Ou bien était-il tourné vers le haut avec reconnaissance en attendant et en voyant les corbeaux arriver? Parfois, dans notre vie, nous sommes tellement focalisés sur un problème, sur une difficulté, sur une épreuve que nous traversons, que nous en perdons de vue tous les bienfaits qui nous arrivent à côté et nous oublions d'être reconnaissants pour toutes les bonnes choses que nous vivons et que nous avons. Alors certes, c'est vrai, la Covid a mobilisé tous ces derniers mois toute notre attention, en tout cas une bonne partie. Mais si nous y réfléchissons un peu ce matin, peut-être avons-nous perdu de vue le reste. Nous n'avons peut-être pas relevé toutes les bonnes choses que nous avons vécues, comme nous l'a dit Dadi tout à l'heure, durant cette année. Notre cœur est-il débordant de reconnaissance pour tous ces corbeaux que Dieu nous a envoyés en 2020 de façon quotidienne? Ou bien au moment de clore cette année, sommes-nous encore remplis de stress et d'angoisse? Élie aurait pu sombrer dans l'angoisse, dans la désespérance. Il aurait pu crier à Dieu, et peut-être l'a-t-il fait, quelque chose du style « C'est toi qui m'as ordonné d'annoncer la famine. C'est encore toi qui m'as amené ici. Et regarde maintenant, je n'ai plus rien. En tout cas, plus rien à boire. » Mais alors que tout semble perdu pour Élie, Dieu lui adresse la parole et l'envoie à 110 kilomètres de là, chez une veuve sidonienne à qui Dieu a ordonné de le nourrir. Faisons encore une pause. Élie n'a plus rien à boire, mais il doit faire 110 kilomètres, soit environ la distance entre Cannes et Toulon, à pied. Élie est israélite, mais après lui avoir envoyé des corbeaux, animaux impurs, Dieu ne l'envoie pas chez une des siens, mais dans un pays étranger, celui de la reine Jézabel de surcroît. Et Dieu ne l'envoie pas Élie non plus chez un riche phénicien, mais à la rencontre d'une veuve, qui est alors l'entité sociale la plus précaire socialement et économiquement la plupart du temps. Et là, eh bien, pouvons-nous dire, eh bien, Élie s'est levé et a dit quelque chose du style « Dieu, tu es très gentil, mais ce que tu me demandes là, c'est au-dessus de mes forces, physiques, culturelles et sociales. Envoie-moi plutôt ailleurs, chez quelqu'un d'autre. » Or, il n'en est rien. Le texte biblique se contente de nous dire de façon lapidaire qu'Élie se leva et partit à Sarepta. Pas un murmure, pas une colère, pas une contestation rapportée dans la bouche d'Élie à ce moment-là. Et moi, comment est-ce que j'aurais réagi à sa place ? Est-ce que je n'ai pas parfois l'impression que dans ma vie, Dieu semble aller trop loin et m'en demander trop? Bien que la vie d'Élie était précaire et probablement très inconfortable, il s'était quand même habitué à une certaine routine et il s'était installé dans un petit confort aussi simple fut-il. Mais la routine, le confort, la sécurité peuvent aussi anesthésier nos sens. Et ils peuvent aussi anesthésier notre vie spirituelle. Et Dieu se plaît à nous sortir de cette routine, de ce confort dans lequel nous avons pu nous installer pour nous mettre en route vers un avenir incertain et hostile en apparence, mais qui peut nous rendre vivants. Si Élie n'a pas murmuré, s'il n'a pas protesté, c'est parce qu'au fil des jours passés auprès du torrent de Kérit, eh bien, il avait tissé une vraie intimité avec Dieu. Et il s'était nourri de sa grâce et de son intimité et de sa fidélité. Il avait su garder les regards en haut et ne pas les laisser trop en bas, baisser. C'est donc avec confiance qu'il s'était mis en route sur une injonction certes déroutante, mais sûre que si Dieu l'appelle à aller à Sarepta, eh bien c'est pour son bien. Il ne se doute pas alors qu'au lieu de sauver sa vie seulement, il va également en sauver deux autres. Élie arrive donc à Sarepta. Dieu semble conduire admirablement le cours des événements, puisque dès que Élie arrive au village, eh bien, il tombe sur une veuve. Dieu a dit donc à Élie qu'il avait commandé à une veuve de le nourrir. Mais la première chose qu'Élie demande à la veuve lorsqu'il la rencontre, eh bien, ce n'est pas à manger, mais c'est à boire. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il ne lui demande qu'à manger. Comme si Élie avait une hésitation, comme s'il se disait que c'était trop beau et trop facile de tomber directement sur la veuve dont Dieu lui avait parlé. Comment savoir si c'était bien cette veuve-là dont Dieu lui avait parlé? Finalement, il se lance et il rappelle la veuve pour lui demander donc aussi à manger. L'hésitation d'Élie nous montre qu'il n'est pas toujours facile de reconnaître la voix de Dieu dans nos vies et que nous avons le droit d'hésiter. mais qu'il nous faut aussi oser. Oser, parce que la foi, eh bien, c'est faire confiance à Dieu, et d'une manière concrète. La foi, c'est comme si nous étions derrière une porte, c'est comme si Dieu était derrière une porte, et qu'il n'attendait qu'une chose, c'est que nous tournions la poignée pour nous ouvrir la porte en grand. Élie a donc osé. Seulement voilà, la réponse de la veuve est déroutante et se résume en substance à quelque chose du style « je n'ai plus rien ». Voilà la rencontre entre un homme qui avait à manger mais plus rien à boire et une femme qui a à boire mais plus rien à manger. Drôle de rencontre, étrange histoire croisée. Une fois encore, comment est-ce que j'aurais réagi à la place d'Élie, à cette déclaration de la veuve, en substance, je n'ai plus rien. Dieu avait commandé à une veuve de nourrir Élie. Or, cette veuve n'a rien à lui offrir, ou le peu qui lui reste n'est vraisemblablement pas pour lui. Et ce serait même inadmissible de lui ôter le peu qui lui reste pour elle, et surtout pour son enfant. Certes, c'est une veuve, mais Dieu a dû se tromper. Ça ne peut pas être cette veuve-là dont Dieu lui a parlé. Il ne reste plus qu'à Élie à poursuivre son chemin. C'est ce qu'Élie a fait, n'est-ce pas? Il a dit au revoir à la veuve et il a continué sa route, la laissant mourir de faim, elle et son fils. Non. Élie n'a rien de tangible, c'est vrai, à offrir à la veuve. Il n'a pas de la nourriture à lui offrir. Mais ce qu'il a à offrir à la veuve, c'est sa compassion et son empathie. Je pense qu'il n'est pas insensible à ce qui arrive à cette femme et ses entrailles doivent être émues de compassion. En fait, il en est au même point qu'elle. Il sait ce que c'est de ne pas avoir à manger, de ne plus rien avoir, d'avoir l'impression que tout semble perdu, fini. Ce qu'il a vécu au torrent de Kérit le rend empathique. Il y a quand même une différence, par contre, entre Élie et la veuve. C'est que la veuve, elle n'a plus d'espoir. Elle est sidonienne. Son dieu, Baal, est censé être le dieu de la fertilité, capable d'assurer le bien-être de ses adeptes. Seulement, voilà, eh bien Baal, lui, il n'agit pas. Et la veuve se meurt sans espoir. Élie, quant à lui, sert l'Éternel, le dieu de la vie. Il a vu au torrent de Kérit ce que Dieu a fait pour lui. Et comment il a pourvu miraculeusement à ses besoins. S'il l'a fait pour Élie, eh bien pourquoi ne le ferait-il pas avec cette veuve alors aussi? Élie reprend alors la main dans la conversation et il demande à la femme de lui faire d'abord un petit gâteau avec ce qu'elle a, puis avec ce qui reste de faire à manger pour elle et pour son fils. Lorsque j'ai lu cette demande d'Élie, j'ai trouvé quand même qu'il était gonflé. Parce que la femme n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche. Et ceux qui font des gâteaux savent bien que ce n'est pas grand-chose et qu'une fois qu'elle aura donné à Élie un petit gâteau, il ne lui restera vraiment pas grand-chose pour elle et son fils. On pourrait avoir l'impression qu'Élie, au lieu d'avoir de la compassion, se montrerait presque un gros égoïste en cherchant à ne penser qu'à lui et à enlever à la femme encore un peu plus du peu qu'il lui reste. La veuve, pourtant, semble accepter facilement, sans broncher, en apparence. Pourquoi? Il y a sûrement des aspects culturels qui nous échappent. Néanmoins, on peut trouver un indice dans sa façon de parler à Élie. Elle l'interpelle en lui disant « L'Éternel, ton Dieu, est vivant ». Elle a reconnu en Élie un Israélite dont le Dieu est l'Éternel. Elle sait qui est le Dieu d'Israël. Elle en a entendu parler. Et elle doit avoir une certaine opinion de qui doit être ce Dieu-là. En réalité, à travers Élie, eh bien, c'est à ce Dieu-là qu'elle s'adresse. Elle l'interpelle, ce Dieu-là, sur sa situation, avec simplicité, mais aussi avec une profonde détresse. Son Dieu Baal, celui de la reine Jézabel, n'a rien fait pour elle. Il ne l'a pas nourrie, il ne lui a pas permis de vivre ou de survivre. Mais l'Éternel, le Dieu vivant, pourra peut-être faire quelque chose pour elle. Elle, l'étrangère, ose un pas vers l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Chacun de nos protagonistes fait ainsi un pas vers l'autre, celui qui est différent. Chacun met de côté ses préjugés, son légalisme culturel et social pour s'ouvrir à l'autre, et ensemble, ils se tournent vers celui qui est le tout autre pour recevoir la vie de sa main. Il ne suffit pas d'avoir entendu parler de Dieu. Il ne suffit pas de savoir des tas de choses, et bien sûr Dieu, de connaître sa Bible par cœur, ou bien d'être capable de faire de la théologie ou de l'apologétique. À un moment donné, Dieu désire que nous construisions avec lui une relation intime, profonde. Il nous faut arriver à dire comme Job, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je sais qui tu es pour moi. » Pour nous, chrétiens, le danger est bien réel. Nous avons tellement entendu parler de Dieu, de la foi, de la Bible, de toutes ces histoires bibliques, que cela fait partie maintenant de notre culture personnelle, au milieu de toutes les autres connaissances que nous pouvons avoir. Et nous avons tellement entendu parler de Dieu qu'il fait partie des meubles de notre vie, n'est-ce pas? Et nous l'oublions, nous oublions de tisser une relation profonde avec lui. Et nous nous étonnons alors, à un moment donné, de ne plus rien avoir, de ne plus vivre même réellement. Lorsque nous nous trouvons démunis devant Dieu, ou lorsque nous réalisons notre besoin, eh bien, de renouer avec lui une relation profonde, nous pouvons nous sentir dépouillés, de ne plus rien avoir à offrir. De même, par ailleurs, lorsque nous désirons nous mettre à son service, par exemple dans l'Église, nous pouvons nous sentir inutiles, pas équipés ou peu équipés. Mais dans tous les cas, Dieu ne nous demande pas de grandes choses. Il ne nous demande pas d'être parfait ou bien d'être très équipé. Il sollicite simplement de notre part des petits gestes, des gestes peut-être insignifiants, peut-être même dérisoires, mais pour opérer en nous de grandes transformations et pour faire déborder en nous la vie. Parce que la vie déborde, n'est-ce pas? La femme a fait selon la parole d'Élie, selon la parole de Dieu, et désormais l'huile et la farine ne manquent pas. La veuve et son fils peuvent manger à leur faim tous les jours. Dieu a pourvu. Face à une foi fragile, exprimée dans un geste tout simple, presque ridicule, face à une démarche qui fait confiance et qui s'abandonne, Dieu pourvoit. Jésus reprendra cette histoire quand il se trouvera dans son village natal, à Nazareth, et il déclarera à la foule qu'aucun prophète n'est bien reçu dans son pays et qu'Élie n'a été envoyé vers aucune veuve d'Israël, si ce n'est vers la veuve de Sidon. Jésus désirait alors un électrochoc pour son peuple. Il désirait que le peuple d'Israël revienne à Dieu, son Père. Mais celui-ci ne l'a pas accepté. Et cette histoire est aussi un triste constat. À l'époque, en Israël, eh bien, la foi en Dieu, à l'époque d'Élie, comme à l'époque de Jésus, la foi en Dieu n'avait plus cours. C'est chez une veuve étrangère et réduite à l'extrême que finalement se cachait une foi grande comme un grain de sénévé. Prenons garde que cela n'arrive pas dans l'Église de nos jours, parce que cela signifierait que Dieu n'y trouve plus sa place non plus. En conclusion, je voudrais revenir sur un des premiers points que nous avons évoqués. L'huile et la farine, donc, sont les éléments qui constituent le sacrifice d'action de grâce et de reconnaissance en Lévitique au chapitre 7 et au verset 12. L'huile et la farine débordent. Ils ne manquent plus dans la maison de la veuve. Chaque jour, ils sont là pour rappeler à la femme et à son fils ce que Dieu a fait pour eux. Et ils peuvent ainsi exprimer, le fils et la veuve, chaque jour, une reconnaissance énorme pour Dieu et pour ce qu'il a fait pour eux. Alors, en cette fin d'année, ne regardons pas au foie gras et au champagne d'un moment fugace, mais bien plutôt à l'huile et à la farine quotidienne que nous avons. Soyons reconnaissants envers Dieu pour toutes ces bénédictions dont il nous a comblés en cette année 2020, aussi dure fut-elle. Que 2021 soit une année où la farine et l'huile ne manquent pas chaque jour dans notre foyer. Confions-nous en Dieu tout à nouveau en 2021, même si nous n'avons rien reçu ou pas grand-chose, et sa grâce surabondera. Amen.